C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandic. Auteur François Truffaut, cinéaste, français, né en 1932, mort en 1984. Politique, gauche, hétérosexuel. Œuvre, Le Dernier Métro, film, 1980. Scénario et dialogue, François Truffaut, Suzanne Schiffman et Jean-Claude Grimbert. Personnage Marion Steiner, interprété par Catherine Deneuve. C'est une histoire de clarté contre une histoire d'obscurité. Une histoire de cave contre une histoire de scène. Une histoire de juif contre une histoire de nazi. Une histoire de France, hélas. Elle se passe à Paris de septembre 1942 à la Libération. Une comédienne, mariée au directeur du théâtre Montparnasse, tient son théâtre en état de marche alors que son mari est absent. Absent, mais pas loin. L'excellente idée du film de Truffaut, Le Dernier Métro, est que ce mari, un juif menacé par les lois raciales et les Allemands occupant Paris, sans parler des Parisiens eux-mêmes, un personnage nous apprend qu'il y a 1500 lettres de dénonciation par jour, se cache dans la cave du théâtre. De là, il peut surveiller les répétitions, donner des conseils, puis une fois le théâtre fermé le soir, retrouver sa femme, dîner, faire l'amour avec elle. Lui, c'est Lucas Steiner, né en 1905, nous l'apprenons par sa carte d'identité aperçue dans une scène. Il a donc 37 ans au début du film, elle, Marion Steiner, est un peu plus jeune. Steiner, je dis Steiner, mais dans le film, certains prononcent aussi Steiner, d'autres Steiner, sans qu'on puisse y voir de raison exacte. Un jeune acteur juif refusé par Marion pour respecter les lois anti-juives, elle qui a un mari juif, oui, mais caché, et elle ne veut pas attirer l'attention et les contrôles éventuels, dit Steiner. On peut supposer que c'est parce qu'il est d'origine de l'Est. Un critique dramatique collaborateur, dont on pourrait penser que pour lui, par mépris, il prononcerait aussi Steiner, dit Steiner. Et Marion elle-même, dont on pourrait se dire qu'elle devrait dire Steiner pour atténuer l'effet étranger, dit Steiner. Je présume donc que Truffaut n'a pas fait très attention à cette question. Marion Steiner, qui a été mannequin chez Chanel, puis actrice de cinéma populaire, est devenue une comédienne de théâtre célèbre et se voit chargée non seulement de protéger son mari, mais de faire fonctionner son théâtre dans une période difficile, cet euphémisme signifiant traverser la vie dans un pays occupé par des gens qui veulent le tuer, son mari. Elle est exposée, elle doit se dissimuler, elle doit jouer sur la scène, mais elle doit continuer à jouer dans la vie. Parce que personne ne peut soupçonner qu'elle cache son mari. Elle vit dans la duplicité, devenue une qualité. Et voilà les régimes des temps odieux, ils rendent les vices des vertus. Pour parler de Marion Steiner, je reçois un cinéaste qui aime tellement Truffaut que, entre autres et sauf erreur, il a fait refaire un des gestes de Jean-Pierre Léo dans Baiser volé par Louis Garrel dans son propre film Dans Paris, Christophe Honoré, qui vient de publier au Mercure de France Un père. Christophe Honoré, dites-moi d'abord à quoi ressemble physiquement Marion Steiner.
J'allais dire, elle ressemble à Catherine Deneuve, ce qui paraît être une évidence un peu idiote, mais non, en fait, parce que elle ressemble, je sais pas, oui, je dirais, elle ressemble à Catherine Deneuve, elle ressemble aussi à Françoise Sagan, elle ressemble à une femme française. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de volonté, comme ça, chez Truffaut, de travailler pas uniquement sur le versant iconique, on va dire, de Catherine Deneuve, mais sur cette idée que Catherine Deneuve, dans un sens, elle est le cinéma français à elle seule. Comme si soudain une actrice pouvait être le cinéma français, pouvait être en même temps Daniel Darrieux et Catherine Deneuve et la suite. Donc c'est une femme blonde. Catherine Deneuve à l'époque a un peu plus de 30 ans.
36 ans, je crois.
36 ans, elle est sublime. Je pense que le cinéma français a eu peu de beauté comme Catherine Deneuve. Et donc elle est... C'est étonnant parce que, avant de venir vous voir, du coup, j'ai eu la chance de croiser Catherine Deneuve et je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, il faut que tu me donnes deux, trois. Et notamment, il y a quelque chose qu'elle me disait qui était assez étonnant, c'est que la majorité des habits qu'elle a dans le film viennent de sa garde-robe. C'est-à-dire que le film n'est pas si... on a l'impression que c'est un peu une grosse production parce que film, il y a tout en studio principalement, etc. Mais en fait, elle m'a dit que c'était un film qui était assez fragile et elle dit, toutes les fourrures, c'était les miennes, etc. Et tout ça. Donc, elle ressemble quand même, quand je vous dis qu'elle ressemble à Catherine Deneuve, en tout cas, elle en a la garde-robe.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que cette garde-robe a l'air très très années 40, mais peut-être que c'était des vêtements de la collection Saint-Laurent, c'est ça ?
C'est exactement ce qu'elle m'a dit, de la collection que Saint-Laurent avait fait autour justement des années 40. Donc c'est des années 40 revisitées. De toute façon, c'est une des forces de ce film-là, c'est que c'est un film... qui ne vise jamais une espèce de naturalisme. Enfin, en tout cas, ça raconte la manière dont l'histoire, en fait, est retraversée dans le film. C'est vraiment depuis les années 80. C'est-à-dire que c'est l'occupation, mais depuis les années 80. Et ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, parce que même quand on fait des reconstitutions historiques, le présent du tournage, en fait, compte toujours finalement beaucoup plus que l'époque qu'on cible dans la fiction.
Il y a un effet dans le film, dites-moi si je me trompe, qui me frappe assez, qui correspond à ce que vous dites, en tout cas sur le non-réalisme, malgré l'apparence du film, c'est la coiffure de Deneuve. Il y a des gros plans permanents sur cette coiffure enroulée, comme ça, style années 40, évidemment, sur ces chignons roulés, qui me font penser à des tableaux d'André Derain, quand il y a des gros plans de femmes, de nuques de femmes avec des chignons.
Oui, et puis qui font aussi penser évidemment au chignon de Vertigo chez Hitchcock, c'est-à-dire que c'est une héroïne hitchcockienne, de par justement ce que vous disiez tout à l'heure, sa duplicité. C'est quelqu'un qui manipule le personnage de Marion Steiner. Et donc dans ce sens-là, c'est comme une héroïne hitchcockienne qu'on aurait plongée dans un film de Renoir. Et soudain, le suspense du coup n'arrête pas d'être rompu par le montage, par, j'allais dire, le contenu dramaturgique du scénario, mais on voit bien qu'il la filme un petit peu comme comme un personnage comme ça, plein dont le mystère serait dangereux. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez noté, en revoyant le film, on ne plonge dans la cave, j'allais dire, qu'au bout d'une demi-heure de film. Le film dure 2 heures et donc il y a un gros quart de film en fait où cette femme, on ne sait pas du tout le mystère qu'elle cache.
Oui, c'est vrai. Elle a été Marion Steiner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution intéressante du personnage. Elle a été mannequin chez Chanel, et elle a été actrice, mais actrice populaire. Il y a une scène où Depardieu, qui joue le rôle d'un jeune acteur résistant, parle avec un de ses amis, et il se rappelle un film qui s'appelait La Maison des Péchés, donc déjà le titre signifie quelque chose, et où il dit, et puis il y avait la fameuse photo. Donc on imagine que Marion Steiner n'a pas toujours été la comédienne chic jouant du théâtre scandinave.
Mais parce que je pense que quand Truffaut quand même propose à Catherine Deneuve dans les années 80 de venir tourner chez lui, j'allais dire, c'est toujours un peu ça quand même, on invite toujours un peu les actrices chez soi, il sait très bien après qui il vient. Et donc il vient après une Catherine Deneuve qui n'a pas été inventée par Truffaut. Truffaut, en fait, même au moment où il l'a filmée dans La Sirène du Mississippi, Deneuve, elle a déjà été inventée par Demy, elle a déjà été inventée principalement, j'allais dire, par Polanski, ou par Buñuel. Et donc, il vient après Belle de Jour, il vient après ces films-là. Donc, je pense qu'il s'amuse aussi de cette idée, justement, de ce qu'a beaucoup représenté Catherine Deneuve dans les années 60 et dans les années 70, c'est-à-dire la femme... comment dire ça, à la fois la femme instable, chez Polanski, et puis, j'allais dire, la femme traître. Qu'on trouve chez Demy, qu'on trouve aussi finalement chez Buñuel. Et lui, il va la réinventer, une autre Deneuve qui d'ailleurs après aura eu elle aura eu des enfants. Ce personnage-là aura eu aussi toute une succession qui est la femme responsable, la femme dont l'autorité en fait est bousculée par la fiction. Et ça, par exemple, c'est que des gens comme Téchiné et tout ça vont beaucoup réutiliser ce que Truffaut a inventé avec Le Dernier Métro autour de Catherine Deneuve. Et Catherine, justement, quand je disais la première fois, en fait, que Truffaut vous a parlé du film, c'était quoi ? Il lui a dit, j'en ai marre de te voir jouer les femmes légères, inconséquentes, je veux que tu sois responsable.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Christophe Honoré, moi je pense tout à fait ça, c'est que l'art n'est parfois beaucoup moins de la vie que de l'art lui-même. Et là, vous nous dites que Truffaut a utilisé les personnages précédemment joués par Deneuve pour créer ce personnage-ci. Vous l'avez eu, Deneuve, dans un film. Est-ce que, de quelle manière avez-vous utilisé le passé de Deneuve actrice pour créer votre personnage ?
C'est-à-dire qu'avec Catherine Deneuve, vous pouvez pas prétendre à l'inédit. Ce serait complètement idiot en tant que cinéaste. Non, quand elle fait par exemple le film de Berco, elle s'en va. Moi, c'est vrai que je comprends pas le côté je vais filmer Catherine Deneuve comme elle n'a jamais été filmée. C'est faux. Catherine Deneuve a été filmée de toutes les manières. Et puis surtout, Catherine Deneuve, elle fait partie de ces actrices qui savent très bien ce qu'elles acceptent d'elle. Enfin, comment dire ça? Elles ne sont pas prêtes à être filmées de partout, j'allais dire. C'est-à-dire, elles offrent en fait une image d'elles au cinéma. Et Truffaut, évidemment, si on voit la Sirène du Mississippi, il n'invente pas grand-chose en fait sur Deneuve à ce moment-là. Je pense qu'il a fallu aussi certainement qu'il mette de la distance entre lui et Catherine Deneuve pour proposer ce personnage de Marion Steiner.
Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que il montre bien que c'est une époque où les positions de principe sont impossibles, à moins de prendre le maquis, comme le fait le personnage joué par Depardieu, lequel d'ailleurs dit à Marion Steiner, il n'y a pas que les théâtres qui sont pleins, il y a aussi les prisons. Mais lui, il peut le dire parce qu'on comprend bien que dans le film, qu'il n'a pas de famille, donc il peut plus facilement devenir résistant, tandis qu'elle, elle a un mari, elle doit le cacher, et précisément, je l'évoquais au début, par exemple, elle chasse un jeune acteur juif qui voudrait un rôle dans son théâtre.
Et d'ailleurs, c'est la première scène, en fait. On la voit, on l'aperçoit comme ça derrière une porte, et elle dit à Jean Poiret, qui est un personnage sublime, quand même, dans Le Dernier Métro, et puis Jean Poiret, acteur sublime.
Je peux vous interrompre un quart de seconde, Christophe Honoré. On dit beaucoup, depuis quelque temps, ça a l'air d'être à la mode, que François Truffaut était homophobe.
Oh, je crois pas du tout. Et d'ailleurs, dans Le Dernier Métro.
Je dis ça à cause du personnage de Poiret, il faut
c'est
le dire.
Poiret est homosexuel, mais il y a aussi Andrea Ferréol, qui est une costumière lesbienne. Et puis, il y a un personnage aussi d'homosexuel, par exemple, dans le film avec Fanny Ardant, La femme d'à côté, qui écrit des livres pour enfants, etc. Non, moi, j'ai pas l'impression. Chez Truffaut, je crois pas du tout, en fait, qu'il y ait d'homophobie. En revanche, ce qui est très étrange, en fait, dans ce personnage de Marion Steiner, c'est une personnage de femme fidèle, pour le coup. C'est pas une Deneuve traîtresse, c'est une Deneuve fidèle, et elle est fidèle à son mari, et cette fidélité l'amène effectivement, a priori, à des trahisons. Comme ce que vous dites, en fait. Elle préfère à un moment dire il faut pas embaucher cet acteur juif parce que si on est contrôlé, etc., le théâtre peut devenir... Il faut surtout pas être suspect. Et cette fidélité, elle va très très loin parce que elle finit par avoir une histoire quand même avec le personnage qui est joué justement par Gérard Depardieu. Mais on a l'impression qu'elle obéit en fait à son metteur en scène. Parce que avant de céder, il y a un moment, il y a une scène dans la cave où il lui dit en gros, ah oui, j'ai entendu la scène, parce qu'il entend tout en fait des répétitions.
Le metteur en scène étant son mari, n'est-ce pas ?
Étant son mari, il entend tout des répétitions par un coup.
Une tuyauterie percée.
Exactement. Et là, il lui dit, mais j'ai l'impression que tu n'es pas très sincère en fait dans la scène d'amour. Et elle lui dit, ah oui, tu crois ? Et il lui dit, oui, tu devrais. Et c'est comme s'il la poussait, en fait. Enfin, comme si Lucas, le metteur en scène, poussait son actrice,
je
en fait.
Je crois même qu'il lui dit positivement, il est amoureux de toi. Non ?
Il le dit ensuite à Gérard Depardieu. Il dit, ma femme est amoureuse de vous, est-ce que vous l'êtes aussi ? Et la scène d'après, c'est Depardieu qui quitte le théâtre. Donc, Depardieu qui admet que lui, il n'est pas amoureux, qu'il a juste un désir pour cette femme, mais qu'il n'est pas amoureux.
Elle va au bord de la transgression, d'ailleurs, parce que. À un moment, elle va à la Kommandantur, à la Gestapo, pour essayer d'obtenir quelque chose. Et on sent là qu'elle est presque prête. Alors, la chose ne se passe pas parce que l'Allemand qu'elle devait voir s'est suicidé. Mais on sent bien là qu'il y a une ambiguïté supplémentaire.
Elle est prête à tout. Et elle est prête notamment à jouer sur sa séduction et à aller jusqu'au bout pour obtenir juste... C'est là la grande force, mais qu'on retrouve très souvent chez Truffaut. On a tendance, les gens qui sont les cinéphiles très truffaldiens, à séparer les films de Truffaut entre les films, on va dire, fous et les films plus sages. Mm-hmm. Et on dit, Le Dernier Métro, c'est un peu académique, c'est un peu sage. Et moi, je crois que pas du tout, au contraire. Mais c'est juste moins tapageur, certainement, que d'autres films de Truffaut. Mais la manière dont elle a d'être fidèle, à la fois en le trompant, à la fois effectivement en étant prête à tous les compromis, toutes les concessions, ça fait partie justement de la folie de Truffaut et je crois que c'est là où le film échappe absolument à l'espèce d'académisme qu'on voudrait lui faire. Enfin, on projette toujours en fait sur ce film un académisme qui n'est pas vraiment présent.
Oui, dans les commentaires DVD d'une des versions du film, Depardieu a une stupidité remarquable. Il dit « Moi, je trouvais que Truffaut était un cinéaste petit bourgeois, mais quand même, j'ai accepté de faire ce film. »
Oui, et puis il se rend compte, et puis parce que c'est assez beau aussi, je trouve qu'on sent dans le film qu'il a écrit le film pour Catherine Deneuve, et qu'au moment du tournage, il s'est trouvé un bon copain qui était Depardieu. Et je trouve que ça se sent dans la manière dont le film est composé, c'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment, c'est un très grand film pour Catherine Deneuve, mais qu'à un moment, il y a quelque chose de l'obsession érotique quand même de Truffaut, je pense, sur Deneuve, qui est détourné par un truc amical, incarné par Depardieu.
Est-ce qu'il y a eu des Marion Steiner à Paris entre 40 et 44? Parce qu'on connaît les actrices qui ont fait le voyage d'Allemagne, comme Darieux, d'ailleurs, que vous citiez tout à l'heure, ou Suzy Delair.
Ça, je pourrais pas vous dire. Je connais pas assez l'histoire du théâtre. Et est-ce que déjà il y a eu une femme, en fait, à qui on ait pu confier durant cette période cette responsabilité-là d'avoir ce théâtre? J'en suis pas certain.
Je crois qu'il y en a. J'en ai trouvé trois. Il y a Marguerite Jamois qui dirigeait le théâtre Montparnasse, Alice Cossea qui avait les ambassadeurs et elle qui a été collaboratrice, et Simone Berriot qui a eu le théâtre Antoine. Mais elle a pris Sartre et donc elle était néo-résistante parce que contrairement à ce qu'on dit, Les Mouches n'était pas du tout une pièce de collabo.
C'est possible.
Alors, pour en finir sur cette question-là des Juifs, il faut dire que la question juive a été redécouverte par Truffaut, je crois, pour un personnage de Baiser volé en 68, il a embauché un détective privé, lequel lui a révélé que son père biologique était juif. Donc ça, c'était une chose qui était devenue peu à peu importante chez Truffaut.
Et Catherine Deneuve, justement, me faisait remarquer qu'il était très... que Truffaut avait très peur, justement... du réalisme de son personnage juif, et qu'il avait notamment demandé à Grimbert de décrire pas mal de petites scènes, le dramaturge, et c'est lui notamment qui avait écrit la scène où Lucas Steiner met à un moment un faux nez juif et dit « Ah, ce serait tellement
plus facile. » Qu'est-ce que c'est d'être juif,
ouais. Voilà, etc. Et donc, il tenait à être exact. Truffaut, et n'étant pas du tout de cette culture juive, en fait, il avait fait travailler effectivement Grimbert.
Nous allons entendre la chanson du film de Truffaut, et que Truffaut a remise à la mode bien des années après sa création. C'est bien entendu Mon homme de Saint-Jean, interprété par Lucienne Delisle. Les paroles sont de Léon Hagel, la musique d'Émile Carrara, et elle date de 1942.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre...
Christophe Honoré, vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission... Il y a l'amour dans la vie de Marion Steiner. Elle aime son mari, on la voit faire l'amour avec lui. Et aussi, elle le fait une fois avec Bernard Granger, qui est joué par Depardieu. Et ce qui est bien, c'est que le film ne fait pas de morale avec ça. Il n'y a pas du tout d'insinuation puritaine, qu'elle soit morale, comme il n'y en a pas en politique, finalement.
Alors, c'est une scène particulière, parce que c'est au moment où il s'en va. C'est au moment où, justement, il y a... l'impossibilité pour eux de vivre une histoire d'amour, que Marion Steiner finit par, j'allais dire, s'offrir en fait au désir de... Et cette scène, Truffaut n'a pas voulu y assister au moment du tournage. Et donc, il était dans la pièce à côté au moment, en fait, où cette scène a été tournée. Et ce qui est assez beau dans cette scène... Elle est très pudique, hein, ces scènes. On voit les jambes de Catherine Deneuve, elle porte des bas, on voit la main de Pardieu, etc. Ils sont allongés sur le sol. Et en même temps, cette scène a quelque chose d'une franchise sexuelle qu'ont peu de scènes au cinéma. Et j'ai l'impression en tout cas moi c'est ce que je me raconte, que si elle a cette franchise sexuelle, cette scène, c'est justement parce que le metteur en scène n'était pas là. Et que c'est qu'une question d'acteur à ce moment-là. Les acteurs qui se permettent, qui se donnent un consentement, un accord pour dire... Tu peux te mettre entre mes jambes, tu peux poser ta main sur mes fesses, tu peux appuyer ton corps contre mon sexe, et on le fait deux fois, et ce sera fini, et le metteur en scène est à côté. Mais c'est assez beau parce que c'est ça aussi, mettre en scène. C'est pas tout le temps être là à regarder, c'est qu'à un moment, des gens fassent des choses pour vous, pas uniquement pour vous faire plaisir, mais ils les font pour vous.
Est-ce que vous vous écartez quand vous tournez des scènes charnelles ou de sexe? Pour le dire positivement.
Non, en fait, c'est comme je ne veux pas embarrasser les acteurs, je fais quelque chose d'encore plus embarrassant, c'est que je les joue avant, en général, avec mon assistante ou avec mon assistant. Mais ce qui est assez beau, c'est surtout que Truffaut fait exactement la même chose que Lucas Steiner fait avec Marion Steiner dans la fiction. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, Lucas Steiner finit par... On a l'impression qu'il pousse sa femme dans les bras de ce jeune comédien. Et là, de la même manière, en fait, Truffaut... pousse un petit peu Catherine Deneuve dans les bras de Depardieu et refuse de le voir. Il ne veut pas le voir. Il est à la cave, comme Lucas Steiner. Et je pense qu'il s'est aussi peut-être amusé de ça. Parce que c'est quand même un film, pour moi, le grand film qui définit le rapport entre une actrice et un metteur en scène. Et qu'il soit mari et femme dans la fiction, vous pouvez en fait... enlever ces habits-là. Et vraiment, tout le film est ça. Qu'est-ce que c'est que mettre en scène une actrice, et pourquoi, quels sont les enjeux de désir et de pouvoir qui se mettent en place en fait à partir du moment où une femme vous dit « mets-moi en scène ».
Alors il y a aussi, il y a parfois des points communs entre l'auteur et ses personnages, il y en a évidemment beaucoup puisqu'il les crée, mais il y en a en particulier dans des obsessions, et on les voit quand elles se réitèrent de film en film ou de roman en roman, et là il me semble qu'il y a une chose, je dirais que chez vous, Christophe Honoré, c'est souvent, j'ai un peu l'impression que vous avez l'obsession des dos. Eh bien chez Truffaut, j'ai un peu l'impression, et là ça se voit beaucoup dans ce film, comme ça se voit aussi dans L'homme qui aimait les femmes, c'est l'obsession des jambes. Parce que les jambes de Catherine Deneuve sont un des éléments essentiels du film, et l'escalier en colimaçon qui descend à la cave est un lieu essentiel où sans arrêt se passent des choses.
Oui, c'est comme si, en fait, cet homme, Lucas Steiner, ne pouvait voir sa femme que s'éloigner de lui. Du coup, en fait, on a du personnage de Marion Steiner comme ça. Ses jambes, j'allais dire, par moments, sont presque plus expressives que son visage. C'est comme si le visage de Catherine Deneuve échappait, en fait, à Lucas Steiner, et qu'il n'avait plus que cette paire de jambes comme ça. Et puis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, évidemment, elle a très peur pour lui. Elle a raison. Il y a toute une mise en scène à un moment quand la Gestapo débarque dans le théâtre où il faut cacher, etc. Mais lui, étrangement, on a l'impression qu'il n'a jamais peur pour elle. Et ça, c'est assez étonnant en fait dans le film, comment il y a une espèce d'égoïsme quand même très très fort du metteur en scène, où il fait prendre tous les risques à son actrice, et lui finalement. Il est presque un peu planqué.
Moi, ce qui m'a frappé en revoyant le film, c'est qu'il n'arrête pas de dire « je veux, je veux, je veux, je veux, je veux ». Il y a une forme de tyrannie chez lui. Alors évidemment, il est enfermé, il est obligé de surcompenser, mais c'est assez frappant.
Oui, mais jusqu'où les actrices ne désirent-elles pas être asservies, justement, à ce genre de tyran ?
Vous voulez prouver avec vos acteurs ce sentiment ? C'est un mot fort, asservissement.
Non, parce que voilà, pendant deux mois sur un tournage comme ça, vous arrivez le matin et vous vous mettez à regarder quelqu'un de très près et à lui dire maintenant je veux que tu fasses ça, et ça va durer deux mois et la personne le fait, donc il y a bien un échange quand même de je trouve que le mot asservissement est assez beau en fait, et d'ailleurs certains acteurs se plaignent à un moment que les metteurs en scène ne les regardent pas.
Alors, il faut pas qu'on soit injuste en parler des jambes de Catherine Deneuve, mais il y a une scène, moi, que j'ai trouvée prodigieuse. Vous allez me dire comment on fait ça, si c'est Deneuve, si c'est Truffaut, ou comment on fait une scène comme ça. C'est au moment où elle coiffe son mari, elle lui coupe les cheveux. La chanson qu'on vient d'entendre, Mon amant de Saint-Jean, est diffusée par la radio, ils l'entendent. Et au moment précis où Lucienne Delisle chante « Il ne m'aime plus », Catherine Deneuve tourne la tête, et puis un regard perdu qui va au loin, Et on sent là, c'est le premier indice où on sent que quelque chose flotte en elle et je trouve ça prodigieux. Comment est-ce qu'on obtient ça?
Bon, avec des gens comme Catherine Deneuve, il faut juste parier sur son intelligence du personnage. C'est-à-dire que, de toute façon, sur un tournage qui dure en général, voilà, d'une manière classique, 8-9 semaines, si vous êtes pas trop mégalomane en tant que metteur en scène, au bout de 2 semaines, vous savez très très bien que les acteurs en savent plus que vous sur les personnages. Et que donc, c'est eux qui vivent les scènes et c'est eux qui les nourrissent. Et vous avez raison, les regards perdus de Catherine, et ils sont très beaux. Je vois très très bien ce plan dont vous parlez. Il y a un autre plan qui est assez terrible, c'est quand elle est avec Daxia, le journaliste collabo, qui vient lui annoncer qu'en fait, son mari n'a certainement pas quitté la France. Et puis à ce moment-là, il y a une alerte et ils se retrouvent à la cave tous les deux. Et il lui dit, mais faut faire revenir votre mari, ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien. Et elle l'écoute et elle est dans une panique absolue, mais qui se joue à rien, en fait. Voilà, ça semble tellement une évidence. Catherine Deneuve est la plus grande actrice française de tous les temps. Donc, dans ce film-là, avec ce rôle-là, elle rayonne.
Alors, si vous aviez, mettons, à retourner ou à faire votre version du dernier métro et que vous n'ayez pas sous la main la plus grande actrice de tous les temps, à qui donneriez-vous aujourd'hui le rôle de Marion Steiner?
Ah, je pense que j'irais chercher chez des actrices étrangères, américaines. Je pense que Marion Steiner, ou Steiner, oui, moi aussi j'arrive pas à le dire.
J'ai remarqué d'ailleurs, vous hésitez sur la prononciation.
Je pense que c'est quand le cinéma français pouvait faire émerger des actrices comme Catherine Deneuve. Et aujourd'hui, il n'y a que le cinéma américain qui peut faire ça. Mais je dirais que quelqu'un comme Nicole Kidman serait une incroyable Marion Steiner.
À la fin, à la Libération, Bernard Granger et Marion Steiner jouent ensemble au théâtre. Steiner, le metteur en scène et mari de Marion, est applaudi. Il monte sur la scène et là, le plan final du film est un plan presque de votre ville où Catherine Deneuve est sur le côté. On la voit réfléchir un peu et elle se place entre ces deux hommes et le dernier plan est Catherine Deneuve tenant la main et à Depardieu et à son mari, laissant suggérer que tout ça va finir par un ménage à trois.
C'est
où je me trompe.
Non, c'est vous qui imaginez qu'il y avait l'âge à trois. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de désir entre Bernard Granger, entre Depardieu et le metteur en scène, Lucas Steiner. Je crois que pour qu'un ménage à trois circule, il faut que les trois se désirent. Et là, c'est pas vraiment le cas. Non, elle crée le lien. Elle crée le lien comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi ça en fait, comme les actrices créent le lien en fait entre les metteurs en scène avec qui elles tournent année après année. Quand vous filmez Catherine Deneuve aujourd'hui, bah vous filmez aussi la personne qui a été regardée par Buñuel, par Demy, par Téchiné et par Truffaut. Et donc les acteurs et les actrices nous font aussi nous relient chaque cinéaste les uns aux autres.
Christophe Honoré, qu'est-ce que vous a appris Marion Steiner?
Qu'est-ce que m'a appris Marion Steiner? Moi, je me souviens très très bien que quand j'ai découvert ce film-là, j'étais encore collégien en Bretagne et je l'ai découvert en vidéocassette à l'époque dans les maisons de la presse. En fait, on vendait comme ça des cassettes vidéo.
Vous l'avez pas vu en salle?
Non, je l'ai pas vu en salle. J'étais trop jeune. Et elle m'a appris quoi? Non, elle m'a appris ce que c'était une actrice, parce que c'est aussi un grand personnage d'actrice. Non, elle m'a appris que je voulais monter à Paris, que je voulais faire du théâtre, je voulais faire du cinéma et je voulais filmer Catherine Deneuve.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Mérine Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Un grand jeudi, tous les jours. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant? lycée.